Bonsoir chers amateurs sportifs, c'est votre moment de Sporama pour passer en revue l'actualité sportive de ce week-end, la commenter et l'analyser. L'information dominante, c'est l'élection du secrétaire général de l'UEFA à la tête de la FIFA. Gianni Infantino hérite une organisation à mille problèmes, mais aussi à mille solutions. La FIFA, cernée par la justice et à l'image ravagée sur fond de corruption, va-t-elle se relever de la plus grave crise de son histoire avec Gianni Infantino, le nouveau président élu vendredi dernier? C'est la grande interrogation de Sporama aujourd'hui. Mais nous allons d'abord jeter un coup d'œil sur l'échec des clubs sénégalais en Coupe de la CAF et l'élimination du représentant du Mali. Nous serons en ligne à Paris avec Oumar Dieng, l'ancien international français que nous allons essayer de joindre tout de suite. Ahmed Nsi sera à Dakar et dans les Grands Lacs avec Christophe Kidjigwa Bujumbura qui est déjà en ligne. Christophe, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Et bienvenue dans Sporama. Je vous le disais donc, il n'y a plus de représentants sénégalais en compétition africaine des clubs après l'élimination de la douane en Ligue des Champions et de Génération Foot en Coupe de la CAF. Ce week-end, notre correspondant Ahmed Nsi revient sur l'échec des clubs sénégalais dès le premier tour. C'est Ahmed Nsi qui a fait ce reportage au Sénégal sur le match de week-end qui a éliminé les Sénégalais. Les Sénégalais qui n'ont pas donc continué la route. Écoutez.
On s'est créé quand même beaucoup plus d'occasions nettes. Malheureusement, on n'a pas pu marquer. En deuxième mi-temps, on a géré. On savait que la DSA allait pousser. Bon, maintenant 2 à 0 d'avance, on a su rester en bloc pour ne pas prendre ce but qui allait nous faire douter. Heureusement, on ne l'a pas pris. Mais j'ai trouvé la deuxième mi-temps très moyenne de la part de mon équipe. C'est ce qui me désole un peu. Mais l'objectif était surtout la qualification. Elle est obtenue. Bon, c'est l'essentiel. On avance et on verra la suite. Tactiquement, on a bien négocié. Surtout, comme je l'ai dit, en première mi-temps, on est resté bien en bloc. On a beaucoup plus maîtrisé le ballon. Créé beaucoup plus d'occasions. En deuxième mi-temps, il ne fallait pas aller à l'abordage n'importe comment. Il fallait rester bien en bloc aussi. Bon, l'adversaire a poussé sans nous mettre véritablement en danger. Hein, ça, il faut le dire aussi. Je pense que nous a beaucoup plus mis en difficulté à Abidjan qu'ici, honnêtement. Dès l'instant où ils ont été menés 2-0, ils ont beaucoup plus poussé. Par contre, là, j'ai été surpris de leur attitude en première mi-temps. Ils nous ont laissé le ballon, ils nous ont laissé jouer. Mais bon, heureusement pour eux, je vais dire, on ne marque pas. Sinon, si on part à la mi-temps avec un avantage de 1-0, ce n'est pas volé. C'est 0-0 à la fin, c'est l'essentiel pour nous.
Voilà, c'était plutôt l'éliminatoire du club malien et c'est les Burkinabés qui l'ont emporté. On va maintenant suivre le reportage de Ahmed Nsi qui revient sur l'échec des clubs sénégalais dès le premier tour.
Si nous voyons les deux matchs, c'est-à-dire le match aller, le match retour, on a pêché au match aller à Abidjan parce qu'on a pris des billes bêtes. Mais ici, aujourd'hui aussi, on était trop engagés. Les enfants voulaient coûte marquer à tout prix, mais ils ont confondu vitesse et précipitation. Ça, on est en football, ça n'a pas marché pour les deux matchs, donc on va continuer à travailler. On s'est préparé avec les moyens de bord, les matchs amicaux, des facteurs qui rentrent en jeu parce qu'on a préparé, on a fait des matchs amicaux, mais cela n'empêche. Je félicite mes joueurs et puis je félicite l'adversaire.
Voilà, c'était donc l'entraîneur du club de la Côte d'Ivoire qui donnait son point de vue sur le déroulement du match. Ce n'était pas donc le résumé, le compte-rendu de Ahmed Nsi. Maintenant, nous l'avons, Ahmed Nsi revient sur l'échec des clubs sénégalais dès le premier tour, c'est en Coupe de la CAF.
Les années se suivent et se ressemblent pour le football sénégalais qui ne parvient pas à franchir le cap du premier tour. En effet, le parcours des représentants sénégalais en compétition africaine s'est arrêté dès le premier tour une nouvelle fois. En Coupe de la Confédération africaine, l'équipe de la génération foot a été sortie par le club nigérian de Nasarawa United, battu lors de la première manche à Abidjan sous le score de 2-1. Les vainqueurs de la Coupe du Sénégal ont été incapables de s'imposer à domicile malgré l'apport du public qui s'est déplacé en masse. Le club sénégalais s'est contenté de nul vers 0 but partout, d'où la déception du coach Djibril Fall qui s'excuse auprès du peuple sénégalais.
C'est une déception. D'ailleurs, on s'excuse auprès du peuple sénégalais. On a voulu vraiment leur faire plaisir et passer ce cap. On a mis vraiment tous les atouts de notre côté, mais en première période, bon, les gosses étaient pressés. Il n'y avait pas aussi le bloc. Ils étaient derrière, on n'a pas su contourner le bloc, passer par les côtés centrés. La deuxième période, on a rectifié, mais il n'y avait pas du football, l'adversaire ne voulait pas jouer. Moi, je pense peut-être que c'est l'expérience. Ils ont cassé le match, l'arbitre aussi s'est laissé faire. Et résultat, le match s'est soldé par un 0-0 qui nous élimine. Et comme je l'ai dit, vraiment, on a voulu passer ce cap, surtout faire plaisir au peuple sénégalais, parce qu'aujourd'hui, il y a une bonne mobilisation et il y avait de la place pour le faire.
L'autre représentant du Sénégal en Ligue des Champions a été humilié à Conakry. En effet, l'AS Douane a succombé à l'enfer du 28 septembre en s'inclinant lourdement sur le score de 4-0 face à Oria Athletic Club. Pourtant, les Douaniens qui avaient réalisé un bon nul 0 but partout à Dakar ont tenu durant la première période, mais le but encaissé en début de seconde période a été fatal, selon le coach Karim Segadiouf.
On a été très présent en première mi-temps, on a répondu sur tous les plans. En deuxième mi-temps, le but est intervenu très tôt. Alors on a libéré les espaces, l'adversaire en a profité. En avant aussi, il faut reconnaître qu'on n'a pas été aussi très très saignant au niveau de la ligne de passe.
Donc c'est la fin de parcours pour les clubs sénégalais en compétition africaine, car le champion en titre, l'AS Douane, a été atomisé et la génération foot tenue en échec. Cela prouve tout simplement que le foot local est malade au Sénégal. Amédine Sy, Dakar, VOA Afrique.
Oui, Amédine Sy qui est à Dakar. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Eric.
Oui, vous avez donc suivi cette compétition du week-end. Est-ce que l'on a du football de haut niveau? Le spectacle était-il impressionnant? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je crois que c'est la déception, hein, parce que en ce moment au Sénégal, la déception est la chose la mieux partagée au niveau du football local, parce que depuis presque 10 ans, les clubs sénégalais ne parviennent pas à passer le cap du premier tour. À chaque fois, les clubs sénégalais bon, jouent le premier tour et disent adieu à cette compétition, que ce soit au niveau de la Ligue africaine des champions, que ce soit au niveau de la compétition de la CAF. La dernière performance d'un club sénégalais remonte en 2004. En 2004, la Gendarque de Dakar faisait partie des 4 meilleures équipes africaines puisqu'elle était demi-finaliste de la Ligue africaine des champions. Depuis lors, un club sénégalais n'a pas réussi quand même à disputer.
Il y a un problème avec notre ami Amédine Sy à Dakar. Il y a un problème de réception. On va essayer de le rejoindre. Nous promenons à Bujumbura pour voir Christophe. Christophe, vous avez suivi cette compétition africaine du week-end. Votre réaction, est-ce que la compétition offrait-elle un bon spectacle, un jeu de haut niveau?
Personnellement, quand je regarde les matchs qui se suivent à Bujumbura, heureusement qu'il y a eu la qualification des deux équipes au niveau de la compétition de la CAF. Il y a Vitalo SC qui s'est imposé hier par la différence de buts. Ils avaient marqué 2 buts à l'extérieur et 2-1, mais hier, ils ont été battus sur le terrain du stade Prince Philo Gassolé. 1-0. Donc, il y a une certaine évolution. Il y a Atlético qui s'était également, disons, qualifié samedi dernier. On voit que les équipes burundaises commencent petit à petit à prendre l'élan des équipes burundaises dans les années 80. Mais en général, au Burundi, on voit une certaine jeunesse qui est toujours talentueuse et qui s'adonne au football un peu partout sur les stades à l'intérieur du pays, les stades qui sont construits par le gouvernement en place. Donc moi personnellement au Burundi, on voit effectivement une certaine jeunesse qui aiment le football. Même dans les quartiers de Bujumbura, malgré les violences qui s'y effectuent, on regarde des jeunes qui sont toujours en train de jouer au football, que ce soit à Buyenzi, que ce soit à Nyakadiga ou dans d'autres quartiers comme Chivitoke. Il y a la jeunesse qui aime le football.
Et sur le reste du continent.
C'est intéressant pour la suite.
Et sur le reste du continent.
Sur le reste du continent, on voit très bien qu'il y a une certaine évolution. Mais comme je le dis chaque fois, Eric, je dis qu'il manque un soutien. Les talents sont toujours là, mais les moyens qui sont alloués au football des jeunes en Afrique ne sont pas les moyens. Heureusement, comme vous l'avez dit, il y a un nouveau président de la FIFA qui
On va y arriver tout de suite, Christophe. C'est le second point à aborder qui va prendre la grande partie de cette émission après cette petite pause. Voilà, l'émission, c'est Sporama, votre émission sportive. Christophe Kidjigo à Bujumbura, Medine Si à Dakar. On essaie de joindre Oumar Dieng, l'ancien international français qui nous a promis de participer à cette émission. Je vous le disais donc, la grande actualité, l'actualité qui domine dans le domaine du football, c'est justement cette élection du nouveau président de la FIFA après 18 ans de l'ère Sepp Blatter. Et c'est Gianni Infantino qui hérite donc l'instance mondiale du football, cette organisation qui a beaucoup de difficultés. La FIFA cernée par la justice et à l'image ravagée sur fond de corruption. Va-t-elle donc se relever de la plus grave crise de son histoire avec le nouveau chef? C'est la grande question dans cette émission. Amédine, quelle a été la réaction à Dakar? Amédine, il n'est pas encore là. On essaie de nous joindre. Christophe, vous avez suivi avec attention. Est-ce que l'élection d'Infantino a été une surprise pour vous?
C'était une surprise pour les amoureux du ballon rond à Bujumbura, parce que tout le monde, parce qu'il y avait la candidature du Bahreini Sulman, on croyait que c'était lui, parce que la CAF avait donné toutes les voix, les 53 ou 54 voix, pour le Bahreini. Mais à la surprise générale, c'est Infantino qui a été élu au deuxième tour. Donc, c'est vraiment une surprise au niveau des amoureux du ballon rond à Bujumbura.
Mmh. Donc, Infantino qui a le rôle de redorer le blason de la FIFA. Quelles sont les attentes en tant qu'ancien footballeur et amateur du ballon rond? Qu'est-ce qu'il doit offrir au football mondial?
D'abord, cette question de la corruption qui gangrène le football mondial doit être, disons, terminée. Donc, si on veut qu'il y ait un certain développement du football africain, du football mondial, il faudra essayer de tout faire pour que la corruption ne soit pas toujours d'actualité au niveau de la FIFA. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je m'excuse, c'est essayer de mettre d'autres structures, on a mis le conseil de la FIFA, c'est une bonne chose, mais d'autres structures qui aideraient les fédérations africaines aujourd'hui, parce que ce sont elles qui en ont besoin aujourd'hui. Mais c'est très bien pour lui. Infantino a promis 25% des recettes au niveau des entrées de la FIFA qui seront distribuées dans les différentes fédérations. Donc pour moi, c'est une bonne chose quand on est en train de penser à l'Afrique, mais c'est également une bonne chose pour le football mondial. Donc pour moi, ça serait une bonne chose si toutes les fédérations africaines pouvaient être indépendante financièrement, mais également essayer de dire à ces fédérations africaines de ne pas entrer dans le même système de la corruption qui a essayé d'éclabousser le football mondial.
Mmh. Amédine, au Sénégal, à Dakar, quelle a été la réaction après l'élection de Infantino à la tête de la FIFA? Est-ce que c'était le candidat attendu?
J'avoue que ça a été une déception, hein, parce que les Sénégalais ont été un peu surpris. On n'attendait pas à cette élection de Infantino au sommet d'un football, quoi, d'un football gangréné, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le football mondial est gangréné par une tuerie, mais au Sénégal, avec le soutien quand même de la CAF pour le chef, on pensait que c'est le chef qui allait passer, parce que avant d'aller rejoindre quand même la Suisse, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, a fait face à la presse et il n'a pas hésité à le dire. Il avait dit que le Sénégal allait soutenir le CHER comme que c'est le consigne donné par la Confédération africaine de football. Et Maître Augustin Senghor, étant un membre de la Confédération africaine de football, avait quand même suivi ce conseil, ce consigne.
Je pense qu'il y a un problème de liaison entre Washington et Dakar. Nous venons de perdre encore une fois Medine, qu'on va essayer de joindre. Nous avons Alphonse Mbouaki à Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir Eric, c'est Marine Tizard.
Oui, vous avez suivi cette élection de Infantino. À Kinshasa, je sais que vous aimez beaucoup le football et que et lorsque vous gagnez un match, je sais que vous dansez au rythme du Kwasa Kwasa, n'est-ce pas?
En tout cas, exactement.
Oui.
Vraiment, nous étions stupéfaits, nous, ici à Kinshasa, de la victoire de Gianni Infantino. Ce n'est pas les candidats qu'on attendait, parce que les sondages donnaient beaucoup plus favoris, monsieur. Le chèque Schulman de Bayern. Mm-hmm. Donc vraiment c'était une grande surprise pour non seulement pour les Africains mais pour le monde entier. Alors à ce qui concerne l'élection de M. Gianni Infantino, en tout cas moi je suis beaucoup optimiste quant à sa fermeté et sa volonté de pouvoir réformer le monde du football, parce que dans ses déclarations, il y en avait beaucoup fait allusion. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a commencé à l'UEFA depuis 2000, hein, jusqu'à maintenant, il a 16 ans d'expérience. Je pense qu'il ne va pas marcher dans les traces de Platini, compte tenu des scandales qui a miné le monde du football au niveau de la FIFA. Donc je pense que c'est vraiment un candidat de changement. Il va combattre la corruption.
Et qu'est-ce que vous vouliez qu'il vous apporte spécifiquement chez vous?
Chez nous en Afrique, ici par exemple chez moi,
la RDC, c'est une grande nation de football.
Exactement. Moi, ce que j'attends de lui, le président de la FIFA actuellement, c'est quelqu'un qui a demeuré là depuis des années. En tout cas, les présidents des fédérations, en tout cas, il faut des textes pour limiter leur mandat. Mmh. Il faut vraiment que ces gens ne fassent pas longtemps et qu'il y ait l'alternance au niveau des fédérations. Et puis, je suis très content quand il dit qu'il va retourner 25% des recettes de la FIFA aux fédérations africaines, à travers le monde. Moi, je veux qu'il y ait des dirigeants qui soient honnêtes, sérieux, pour gérer, pour gouverner nos instances sportives en Afrique et partout ailleurs. Pour que les acteurs... Voilà.
Oui, vas-y, terminez votre phrase.
Pour que ceux qui sont des acteurs directs du monde de football bénéficient, au lieu que l'argent soit dilapidé par ceux qui ne font rien dans le monde de football ou dans d'autres disciplines sportives. Donc,
merci Alphonse pour votre contribution, vos attentes. J'espère qu'il va essayer de réformer, de régler certaines situations. Alfred Ouadi, sur notre page Facebook, il a dit « Infantino doit tout faire pour que de tels scandales ne se répètent dans une prestigieuse institution comme la FIFA ». Il parle donc le scandale de corruption Et Joseph Seona Messam Dawa dit « Histoire, la FIFA ne changera pas, la corruption sera, ne sera que maquillée ». Au fond, il dit que la corruption va continuer à gangréner cette organisation. Nous avons un autre auditeur qui est au Mali. Keïta, bonsoir.
Bonsoir.
Ah oui, votre commentaire.
Ouais, si vous me permettez d'avoir juste à réagir concernant quand même les compétitions africaines.
Très rapidement.
Vous savez, représentant quand même au Mali, on fait un 4 résultat. 4-4 représentants. C'est 4, c'est 1 sur 4. C'est le stade malien qui a finalement passé, mais les autres quand même. Cela termine quand même l'image du football malien. Concernant quant à l'élection quand même des Infantino, moi quand même je me réjouis, hein, parce qu'il a dit.
Il y a un problème téléphonique. C'est dommage que Keïta ne termine pas son idée. Il y a Pasteur Boise sur notre page Facebook qui dit, je crois, qu'il doit procéder aux réformes et sur tous les plans pour permettre à la FIFA de retrouver un nouveau visage. Et il faut vraiment des mécanismes juridiques très professionnalisés, fiables, afin de mettre fin à la mafia au sein de la FIFA. Mav Chisambika dit « Tout dépendra et sera possible que si le nouveau dirigeant prendrait conscience et de fournir un grand effort afin de surmonter toutes les embûches et faiblesses. Cependant, Gianni Infantino doit savoir que la FIFA est une instance qui a besoin des hommes forts, intègres et indépendants pour sa performance fonctionnelle, vu la taille de responsabilité. Du reste, le public mondial jugera ses capacités durant son mandat à la tête de cette gigantesque instance. C'est Mave Chisambika de Katanga. Alors, Christophe, il y a ce beau musée que la FIFA doit à Sepp Blatter. D'ailleurs, Infantino, le nouveau président, l'a inauguré hier matin. Le musée reflète l'universalité du football. Il expose de nombreux objets retraçant l'histoire du football, des souvenirs de Coupe du Monde, des objets ayant appartenu à des grands joueurs, des trophées. Le musée offre des espaces interactifs ainsi qu'une bibliothèque réunissant plus de 5000 ouvrages consacrés au sport le plus populaire au monde. Infantino a également reçu un mot de félicitations de la part de son prédécesseur avec un ton malicieux avertissant que les amis deviennent rares quand on est assis sur le fauteuil de président. Christophe, ce musée, c'est une bonne idée.
Très bonne idée, parce que si on pouvait, pas seulement au niveau de la FIFA, mettre des objets d'art qui montrent le développement du football mondial à travers les siècles, c'est une très bonne idée qui est à encourager. Mais ça serait également très bon si jamais c'était encouragé dans les pays en développement, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique et ailleurs, mettre dans chaque fédération, dans chaque confédération, des musées de la sorte. C'est une très bonne idée que j'encourage pour le bien du développement du football mondial. Mais ce dont je me pose des questions, qui vont gérer ces musées si jamais ces musées sont là? Est-ce les anciens footballeurs? C'est la grande question. Est-ce que ces anciens footballeurs seront-ils demain les dirigeants d'une grande instance comme le football, comme la FIFA? Peut-être, peut-être pas, mais ça serait une très bonne chose si demain la FIFA est dirigée par les spécialistes, les gens qui ont joué au football.
Il est prévu que ce musée soit visité par plus de 250 000 personnes par an, et c'est un musée à 3 étages qui a coûté 129 millions d'euros. C'est une grande bâtisse qui va générer de l'argent.
Et également, la FIFA a beaucoup de moyens. Ils ont en réserve à peu près 5 milliards de dollars, même si ils ont des dettes aujourd'hui qui s'équivalent à 1,5 milliard pour cette année 2015 que nous venons de quitter. Ça serait donc une bonne chose. C'est une bonne bâtisse, comme tu viens de le dire, mais il faudra gérer ça d'une façon la plus, disons, la plus positive possible. Il va y avoir des entrées. Ce n'est pas seulement 250 000 personnes qui vont visiter ce, musée, il y aura même plus. Le football mondial, il a beaucoup de fans. Donc pour moi, je crois que demain après-demain, il faudrait essayer de regarder les bienfaits de ce musée, le mettre dans d'autres continents, dans d'autres pays, pour que demain, le musée du football soit véritablement mondial.
Mmh. Oui, Christophe, avant de nous quitter, un coup d'œil sur le comportement des Africains évoluant dans les compétitions occidentales. On parle beaucoup de Riyad Mahrez, l'Algérien qui joue en Angleterre, Christophe.
À Leicester. Donc, c'est un grand footballeur. Donc, on regarde très bien avec l'attaquant, l'autre qui marque. Lui, c'est lui, Mahrez, c'est lui qui façonne cette équipe de Leicester. Aujourd'hui, demain, après-demain, il y a des Africains qui sont là-bas. Et je crois que cette équipe, s'ils continuent dans les 10 derniers matchs, de la même façon qu'ils sont en train de se comporter, Mahrez peut être un des grands du football mondial de demain.
On dit même qu'il pourrait être le meilleur joueur de la Ligue en Angleterre.
Hein. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui se déplace avec aisance, il donne le ballon au buteur, et voilà. Donc, je vois que il y a des joueurs africains qui commencent à faire
merci
leur victoire
Christophe.
Au niveau des championnats.
Merci Christophe. Après, il y a aussi Aubameyang en Allemagne qui a totalisé 32 réalisations en 35 matchs. Merci à Christophe pour votre contribution à Made in Si, même si le téléphone nous a fait défaut, à Alphonse Mbouaki, à Keita et à d'autres intervenants sur notre page Facebook. Merci à Joselle. Eric Manilakiza vous dit au revoir. À la prochaine. La